parité en politique, oui. Effectivement, c'est souhaitable. Dans les conseils municipaux, il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, en tout cas à Montpellier. Comment motiver les femmes ? Peut-être demander aux hommes de laisser un peu plus de place aux femmes.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi, pour mieux comprendre notre époque à travers ses mots, ses expressions, parfois même ses lois. Non, n'ayez pas peur, Quentin. Vous le savez, je vous l'ai juré sur la mémoire de Pierre Bachelet, jamais je ne consacrerai d'émission à une loi d'ordre fiscal ou toute autre loi sous le coup de laquelle vous pourriez tomber pour vos magouilles avec l'URSSAF. Non, c'est une loi totalement indolore pour vous dont on va parler aujourd'hui, la loi sur la parité en politique. Si pour notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, ça constitue, je le cite, la seule faute impardonnable de Jacques Chirac, pour le reste des Français, il s'agit là d'une loi juste et nécessaire. Mais justement, 26 ans après qu'elle a été votée, quel a été l'impact réel de cette loi sur la parité en politique ? Y a-t-il vraiment en France aujourd'hui 50% de responsables politiques femmes? Rien qu'un rapide coup d'œil à l'Assemblée nationale actuelle nous permet de répondre non. Alors pourquoi, malgré cette loi, il y a toujours une surreprésentation masculine dans notre vie politique? Est-ce que la nouveauté qui nous attend lors des prochaines élections municipales, à savoir que désormais même les communes de moins de 1000 habitants vont devoir présenter des listes paritaires, peut changer la donne? Cyril, lui en tout cas, s'en fout royalement, comme il nous le confiait ce matin en petit déjeunant de quelques restes de blanquettes de veau fossilisées datant du mâchon de jeudi dernier qu'il récupérait dans sa barbe. Rien ne l'empêchera de se présenter à la mairie de Pontaut-Combault, je cite, et certainement pas une gonzesse. Tête de liste d'un parti qui se veut apolitique, mais quand même légèrement à droite d'Éric Ciotti, Cyril a trouvé son slogan « Make Seine-et-Marne great again ». Rendez-vous aux urnes le 15 mars prochain. Prochain Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Vous êtes prêt, Cyril ?
Ah, pour la mairie, bien sûr.
Bien sûr.
Mec, c'est les mains de
ça va se passer, Quentin, ça va
de
se passer.
7-7.
Et on accueille tout de suite ma voisine, je viens de le découvrir en antenne. Bonjour Sandrine Lévesque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Sandrine, cet après-midi. Vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille, spécialiste des questions de genre en politique. Vous avez notamment coécrit « Femmes en politique » avec Catherine Achin aux éditions La Découverte. La parité en politique va franchir, je le disais, un nouveau cap lors des prochaines élections municipales. Désormais, toutes les listes devront présenter autant d'hommes que de femmes, même dans les communes de 1000 habitants qui en étaient exemptées jusqu'à présent. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou au contraire, ça ne changera pas grand-chose? Le monde rural craint de ne pas trouver assez de femmes. Est-ce que ça, c'est justifié? Vous allez nous le dire. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices. Les tic-et-tac du journalisme, les zig-et-pus de l'info. J'ai d'autres références plus anciennes, mais je préfère me contenter de ces comparaisons modernes qui parlent, j'en suis sûr, à la Gen Z qui nous écoute en masse. Yo, les jeunes, Manon Mariani, Quentin, lui. Bonjour.
Je suis gênée. Bonjour. Bonjour à tous. Mais... Cyril, vous appelez Jeanne et Serge aussi.
Ah, mais Jeanne et Serge, c'est... Ah, ça, c'est ringard.
Oui, c'est une belle ref aussi.
J'avais pas la ref. Moi, je pensais que c'était Birkin et Gainsbourg. J'ai rien compris.
Mais non, Jeanne et Serge, c'était les
j'ai
fans
compris.
De volleyball.
Mais oui, absolument, les joueurs de volleyball.
C'était un dessin animé
du club de Rotterdam. Et Serge. Non, bref, allez,
ah, c'est la première fois que vous chantez
quand vous faites la chansonnette. Vous disiez que vous chantez à cause de moi.
Je chante très mal.
Oh non, c'était bien parti.
C'est gentil, Mathieu.
Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une petite pièce jointe dans votre mail aujourd'hui.
Une ancienne première ministre néo-zélandaise, elle a marqué son mandat par sa politique basée sur l'empathie et sur son leadership féministe.
Face à vous, Sandrine, ce qu'il est convenu d'appeler un sacré filou. Puisqu'afin de pouvoir justifier de son abattement fiscal de 7650 euros réservé aux journalistes professionnels et donc impartiaux, il s'emploie depuis 3 ans à ne pas révéler ses préférences politiques à l'antenne. Hélas, vendredi, il a été parfaitement percé à jour par notre invité, un journaliste politique à qui on ne l'a fait pas.
Mais vous parliez d'Alain Madelin.
Arrêtez avec ça.
Eh oui, Quentin, maintenant que la France sait votre
c'est
inclination
coupé,
politique,
c'est
tout à droite de l'échiquier politique,
c'est bien, c'est
tendance,
un montage,
tendance
c'est spontané,
ultra-libérale,
hein.
Ah, oui. Tout le monde sait que vous êtes fan d'Alain Madelin. Racontez-nous plutôt ce que les passants dans la rue vous ont dit de la parité en politique.
J'ai discuté avec des citoyens de villes, de communes, de petites communes et même de villages. Que va changer cette loi qui impose désormais la parité d'une liste, même dans les communes de moins de 1000 habitants? Réponse et avis de la rue à l'approche des municipales dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous que si la misogynie est une tare très répandue, elle est carrément répandue par Canadair dans le monde politique. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux plus belles citations misogynes en politique, qu'on les doive d'ailleurs à des hommes ou des femmes. Bisous Christine Boutin. Après 17h, je vous engage à rester avec nous parce qu'on recevra un reporter assez épatant. Cyril Amourski fait des allers-retours entre l'Ukraine et la France. Il sort un livre sur cette guerre. Il sera avec nous jusqu'à 18h. Mais d'abord, on va donc zoomer sur cette règle de parité électorale avec vous, Sandrine Lévesque. Première question qu'on est en droit de se poser, est-ce que la loi de 2000 a été efficace? Qu'est-ce qu'elle a radicalement changé la donne?
Radicalement, je dirais pas. Mais en fait, elle a quand même changé les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes en politique
ça
aujourd'hui.
C'est un fait.
Ça, c'est un fait. Il y a beaucoup plus de femmes en politique. Je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes ailleurs, c'est-à-dire que la loi sur la parité, elle a eu aussi des effets sur d'autres espaces politiques, enfin sur d'autres espaces, les grandes entreprises, les fédérations sportives. Il y a eu d'autres textes qui ont été votés. Je pense que MeToo ne serait pas arrivé sans la loi sur la parité. Donc on a instauré un contexte qui était un contexte égalitaire et paritaire. Et en même temps, l'ordre politique...
Vous aussi, en même temps.
Et en même temps, moi aussi, l'ordre politique reste extrêmement genré. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore des inégalités, là où, évidemment, on a, enfin, les postes les plus importants politiquement sont les moins féminisés, et puis il existe toujours une division sexuelle du travail politique, ou sexuée du travail politique, et ça, ça reste très marqué.
Alors qu'il va nous planter le décor, je tiens ici à m'excuser évidemment auprès de Cyril Lacaillère, qui bien sûr n'a rien contre la parité en politique. Il a d'ailleurs vécu au tournant des années 2000 une romance torride avec une femme politique de premier plan. On citera pas son nom, mais Michèle Alliot-Marie. Elle était un peu trop à gauche pour moi, mais sacré bout de femme, commentera Cyril Mame. Dans ses mémoires, confession d'un serial
bien.
Lover.
Ah,
oui, c'est elle dans la fosse de Prince.
Ah.
Non, c'était moi.
On embrasse Maïté. Cyril, en attendant cette publication dont l'annonce vient de faire frémir d'excitation la communauté des Lacarzouz, oui. Racontez-nous la parité électorale, d'où ça sort.
Imaginez l'Assemblée nationale en 1993, regardez les bancs, c'est une mer de costumes. Il y a 5,7% de femmes, c'est moins qu'en 1946. La France est la lanterne rouge de l'Europe, juste devant la Grèce. Lors des dernières législatives, les choses avaient pourtant changé. Il y a 36% de femmes députées. Alors j'ai dit que les choses avaient changé, mais que ce n'était pas encore la révolution. Dans les conseils municipaux, c'est mieux puisqu'on est presque à la parité. Tout ça, on le doit à la loi sur la parité en politique, votée le 6 juin 2000, une première mondiale à l'époque.
Mais cette loi, elle trouve son origine 5 ans plus tôt.
1995, Jacques Chirac touche au Graal, il est élu président de la République. Son premier ministre, Alain Juppé, innove dans la politique française en nommant 12 femmes dans son gouvernement. Tout le monde applaudit, on les appelle même les Juppettes. 6 mois plus tard...
Super.
Je ne suis pas sûr que ça soit un signe d'un changement de temps.
6 mois plus tard, remaniement, 8 sont virées sans ménagement. Juin 96, des femmes politiques de tous bords signent le manifeste des 10. Elles demandent la parité en politique. Il faudra attendre encore 4 ans pour que cette loi soit votée grâce au gouvernement de Lionel Jospin. Cette loi impose 2 systèmes. Pour les élections de liste, comme les municipales, elle les oblige à alterner un homme, une femme, un homme, une femme. Si la liste ne respecte pas ça, elle est rejetée. Résultat, eh bien c'est un succès. On a presque 50% d'élus locaux. Pour les législatives, c'est plus compliqué car on n'élit qu'une seule personne. Donc, dans ce cas-là, la loi prévoit des amendes si les partis ne présentent pas 50% de candidates. Alors d'où ça sort la loi sur la parité ? Eh bien d'un partage du pouvoir qui se fait encore beaucoup attendre. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Sandrine Lévesque, cette loi de juin 2000, il faut revenir, à l'époque, les opposants à ce projet disaient qu'elle ne devait pas présenter une personne en fonction de son genre, mais de ses compétences. Est-ce que cet argument, j'ai l'impression que c'est un argument qu'on n'entend plus aujourd'hui, ça. On a bien compris qu'il fallait...
Très rapidement, en fait, la loi sur la parité, elle a été l'autre argument, un autre argument a pris le dessus sur celui-là, qui était l'argument de « il y a une crise de la représentation politique, il y a une crise de la démocratie ». Et donc, à ce moment-là, on se dit « il faut que les assemblées parlementaires, les assemblées locales, etc., ressemblent davantage à la population française que ce qu'elles n'étaient jusqu'à maintenant ». Donc, en fait, très rapidement, celle qui était favorable à la question de la loi sur la parité, alors évidemment, il y a eu tout un débat très intéressant d'ailleurs sur l'universalisme à la française, etc. Enfin, vraiment un débat de haute tenue hein, qu'on aimerait encore aujourd'hui voir, parfois dans le débat politique. Mais en fait, les femmes qui étaient favorables à la parité, enfin en tout cas, elles ont dit non. En fait, ce qu'il faut dire, c'est il faut dire que voilà, ça va sauver la démocratie d'une certaine manière. Et ça. Ça a quand même eu un petit effet pervers, c'est que ça a enfermé les femmes dans un rôle qui était le rôle de faire de la politique autrement. Et en 2000, on dit les femmes font de la politique autrement, les femmes vont faire de la politique autrement, elles vont être plus proches des gens.
Qu'elles prouvent deux fois plus d'une certaine manière.
Qu'elles prouvent deux fois plus, et puis surtout qu'elles restent dans un rôle qui était quand même un rôle relativement féminin. C'est-à-dire que d'être dans la proximité, d'être dans l'empathie, etc. Et donc, du coup, ça les a un tout petit peu enfermées dans ce rôle-là. Et c'est pour ça aussi que quand il y a eu des femmes qui ont fait de la politique comme les hommes, eh bien peut-être qu'elles ont été aussi un peu stigmatisées très rapidement. Et donc, on a cette espèce de tension entre, d'un côté, on admet les femmes dans le jeu politique, mais on admet les femmes dans le jeu politique pour transformer en quelque sorte le jeu politique et en les enfermant dans un rôle spécifique.
Mais cette loi, elle a quand même changé les esprits, au sens où aujourd'hui, par exemple, si cette loi n'existait plus, on peut quand même imaginer que la plupart des partis maintiendraient une parité quand même dans leur liste, non ? Ou ça s'évanouirait du jour au lendemain ?
Enfin, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a certains partis qui ne maintiennent pas la parité. Hein, si on part simplement de l'Assemblée nationale, qui est quand même l'espace le plus important en politique aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a des partis qui acceptent, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, de payer des amendes. Ouais, alors, ce n'est pas tout à fait payer des amendes, mais renoncer à une part de leur financement public. Voilà. Et puis, il y en a qui présentent 50% de femmes, mais dans des espaces qui ne sont pas, où elles ne peuvent pas gagner. Donc, en fait, sinon, il y aurait 50% à l'Assemblée. Là, on est à 36%. En fait, il y a beaucoup de partis qui se conforment à la loi sur la parité, mais qui vont présenter des femmes de gauche dans des bastions de droite, des femmes de droite dans des bastions de gauche, avec aucune chance de gagner. Et donc, je ne suis pas sûre que sans loi sur la parité, on serait toujours, enfin, on arriverait en fait à la parité.
À suivre dans Zoom Zoom, une spécialiste de l'égalité femmes-hommes, puisque Marine Leonardi va nous rejoindre pour nous livrer sa vision de la parité. Mais pour l'heure, petit break musical savoureusement vintage. Oh mon Dieu, que n'ai-je groové sur ce tube. Voici Cosmic Girl, Jamiroquai sur Inter. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Non, je ne suis pas en train de faire un AVC, c'est juste ce qui vous attend sur les listes électorales. Un homme, une femme. Un homme, une femme, c'est la règle de la parité électorale, les amis.
Tout Sandrine Lévesque. Ça pour placer un peu de Lelouch.
Exactement, un peu de Lelouch, toujours, ça fait plaisir.
Sandrine
Lévesque, prof de sciences politiques. Ah, hein, visiblement, j'ai l'impression que Manon va démarrer le quiz avec
non,
un point de pénalité.
Non.
J'ai senti une taquinerie dans votre remarque. Sandrine Lévesque, prof de sciences politiques, est avec nous. Sandrine, lors du prochain scrutin municipal, on l'a dit, toutes les communes, cette fois, vont être soumises à cette fameuse parité. Pourquoi pourquoi ce n'était pas encore le cas pour les communes de moins de 1000 habitants jusqu'à présent? C'était quoi? Ils avaient une règle dérogatoire?
Alors, il y avait une règle dérogatoire parce qu'il y a une possibilité de panachage. Ouais. Donc, une possibilité aussi de faire un peu la liste que l'on souhaitait voir élue dans ces petites communes. C'est vrai que les résultats n'ont pas été très, très bons. Hein. Je crois qu'on était aux alentours de 38%, alors qu'on était à peu près à 42% en moyenne et à 48% pour les villes au-dessus de 2000 habitants. Donc, c'est vrai que les résultats n'étaient pas très, très bons. Du coup, ça faisait baisser quand même la moyenne de la parité, les résultats de la parité. Donc là, je pense que voilà, l'idée, c'est quand même à la fois de permettre la loi sur la parité et je pense aussi peut-être une diversification des élus locaux. C'est-à-dire qu'on a quand même des élus locaux...
Qui sont là depuis 25 ans.
Qui sont là depuis 25 ans, qui sont des notables en politique, hein, qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle la notabilisation en politique, hein, des agriculteurs, des médecins, des notaires. Et peut-être que cette loi en politique, elle va aussi permettre, comme... Ça avait été le cas, d'une certaine manière, un tout petit peu. Hein, ça a permis de renouveler, en quelque sorte, le personnel politique aussi, un peu.
Mais il l'accueille, cette loi, ou il la redoute, finalement?
Alors, je pense que là, on voit quand même des levées de boucliers contre la loi. Hein, à la fois des levées de boucliers, mais qui était aussi l'argument en 2000. Hein, c'est de dire, premièrement, eh bien, on ne va pas trouver de femmes. Bon, en 2000, on a dit, premièrement, on ne va pas trouver de femmes. On en a trouvé, hein, la démocratie n'a pas été menacée de ce point de vue-là. Tout va bien. Et puis, la deuxième chose, c'est, ah là là, les électeurs, hein, j'ai regardé un peu les arguments, c'est, ah là là, les électeurs vont moins participer parce qu'ils ne peuvent pas faire leur petit panachage à eux. Et donc, du coup, ils sont sur des listes bloquées, donc ça ne va pas être... Et puis, tous ces hommes, hein, quand même, qu'on va rejeter à cause de ça. Hein, parce que, évidemment, ceux qui veulent se représenter et qui ne seront pas, donc qui ne pourront pas se représenter, qui vont être obligés de laisser leur place à des femmes.
Et maintenant, je vous sens ému par ces hommes.
Toujours. Qu'est-ce qui se passe si dans une commune, aucune liste ne respecte cette parité?
Ben, je pense qu'on ne peut pas déposer la liste, donc il faut que la liste respecte la parité. Ça, il faudra que la liste respecte la parité. Il y a une petite marge, hein, je crois qu'il y a une petite marge de 2 candidats sur la liste, mais en fait, il va falloir, sur les scrutins de liste, il faut déposer des listes qui sont des listes paritaires.
Il faut rappeler que seuls 20% des maires aujourd'hui sont des femmes. Il y a encore un plafond de verre malgré la parité.
Oui, c'est-à-dire que, évidemment, ce plafond de verre, on le voit bien évidemment au niveau local, mais dans toutes les institutions, on va voir qu'il y a ce plafond de verre. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quand même que dans les grandes villes, eh bien, il y a des maires qui sont des maires symboliques, qui sont des femmes à Strasbourg, et on l'a vu en 2020 notamment, hein, à Strasbourg, à Poitiers, à Rennes, à Nantes...
À Paris.
Donc on a eu quand même ces femmes qui sont arrivées, et c'est vrai que dans les petites communes, eh bien, il y a beaucoup moins de femmes qui sont maires. Parce que la figure, c'est la figure du notable.
Mais sans être dans la caricature, vous disiez tout à l'heure, ces hommes qui sont à la tête de petites communes depuis 20, 30 ans, avec le conseil d'hommes, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de tricher? Je dis n'importe quoi, et c'est un peu caricatural, mais de dire, je vais mettre ma belle-sœur dans la liste, et donc la liste va être faussée, même si elle est paritaire.
Il y a eu ce petit risque-là, j'allais dire, on ne peut pas prévoir ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on pouvait aussi prévoir ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé en 2001. C'est-à-dire qu'en 2001, on a eu aussi, à un moment donné, finalement, ce que nous, on a appelé dans nos ouvrages des profanes, c'est-à-dire des femmes profanes, c'est-à-dire qui ont été préférées à des militantes aguerries. Donc, en fait, pour conserver le leadership masculin, les faiseurs de listes, hein, qui étaient principalement des hommes, au niveau des municipales en 2001, ont plutôt été chercher des femmes qui étaient des profanes. Alors, ça correspondait bien à la parité, puisqu'il fallait renouveler, il fallait de la fraîcheur, il fallait de la nouveauté, etc. Ça correspondait assez bien. Et ces femmes, du coup, elles n'ont pas forcément fait carrière. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a eu une forme de professionnalisation politique, que ça a permis à des femmes de rentrer en politique, de se professionnaliser et d'arriver à des postes. Donc je pense que ce qui va se passer là aussi, c'est que peut-être dans un premier temps, il y aura ce type de femmes, mais qu'au fur et à mesure, eh bien, il va y avoir aussi des gens qui vont se spécialiser dans la politique. On ne se professionnalise pas dans les villes de moins de 1000 habitants, hein, mais il va y avoir des instits, il va y avoir des associatives, etc., qui vont peut-être prendre la place aussi.
Un jour, il siégera en doyen au conseil municipal d'Alençon. Grâce à son projet phare, la Silicon Valley, jeu de mots qui lui aura été suggéré par son adjoint, Guigui Pop, évidemment. Quentin, lui, sera l'un des barons locaux les plus puissants de France. Même ses détracteurs reconnaîtront qu'il a su investir dans des équipements d'avenir, comme cette piste de karting géante qui, en banlieue d'Alençon, a remplacé un collège qui ne servait pas à grand-chose. En attendant ce futur radieux que vous offrirez un jour à la basse Normandie, Quentin, racontez-nous la parité en politique, les passants, ils en pensent quoi ?
Eh bien, allons voir les gens dans la rue. Ma première rencontre, c'est Jean-Baptiste, qui, dans sa veste d'hiver caouée verte foncée et ses baskets colorées, approche quand même sérieusement de la quarantaine. Il découvre le thème qu'on aborde aujourd'hui.
Arrêtez ce mépris,
cet agisme, Quentin.
Il découvre, on y arrive, Il découvre le thème qu'on aborde aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Parité en politique. Pour tout vous dire, moi je suis sur une liste municipale d'une commune de 8000 habitants, où il faut déjà qu'on soit 29 en parité. Alors il se trouve que dans notre ville, on avait plus de femmes que d'hommes, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'être sur la liste. Mais pour les petites villes rurales de moins de 1000 habitants, déjà ils ont du mal à trouver des candidats, alors avoir des listes paritaires, je sais pas comment ils font, sachant que les listes doivent être assez nombreuses quand même, même pour moins de 1000 habitants. Moi je vous dis, nous on est 8000 donc...
Comment ça se passe ? Vous avez vraiment respecté la parité ?
Ah ouais, alors la maire, il se trouve que c'est une maire, elle est pas dans la liste, donc on est 29. Le maire est entre guillemets non-genré, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, ça implique pas le nombre de personnes après. Et après on est 14 hommes, 14 femmes.
Bon, tout ça c'est très bien, mais comment on fait dans les zones rurales ?
Je connais des villes de 80 habitants où le maire en fait il est agriculteur. Il est tout seul à faire employé municipal. Quand il neige, c'est lui qui sort son tracteur, etc. Donc en fait, je comprends qu'ils aient du mal à trouver des vocations. Et si en plus, ils sont... Enfin, je trouve ça normal qu'il y ait de la parité. Après, je ne sais pas ce que la loi prévoit comme... qu'est-ce qui se passe si la liste, elle n'est pas paritaire ? Elle est refusée par la préfecture ? Je pense que la liste adverse peut mettre un recours, etc. Enfin bref, c'est effectivement...
On rentre dans un...
C'est un peu de complexité. Après, bon, je suis pas complètement... bonnes idées, dures à mettre en place, comme dirait l'autre. Great idea doesn't work, comme dirait Trump, non ?
Oui, c'est toujours bien de citer les grands noms de ce monde. Je fais la connaissance de Carole. Je lui demande pourquoi, à ses yeux, c'est important de respecter la parité en politique.
Ben parce que c'est bien d'avoir les deux avis. Avoir des avis de femmes aussi. Et des objectifs de femmes, qui sont pas forcément les mêmes que les hommes. Bah, par exemple, plein de choses. La sécurité, je pense que c'est important aussi.
C'est-à-dire qu'il y a un regard de femme sur la vie en société qui est très différent.
Sur le quotidien, oui, je pense. Bah, parce qu'elles ont tellement de choses à gérer. Les enfants, le travail, la maison. Les hommes, ils sont omnibulés que par leur travail et leur carrière. Contrairement aux femmes.
Ça change pas, ça, un peu ?
C'est peut-être en train de changer, petit à petit.
Peut-être. Elle parle d'une sorte de female gaze du quotidien qui permet de contraster avec des décennies de vision d'hommes, avec leurs problématiques, leurs priorités, même locales. J'arrête désormais cette jeune femme, 27 ans, où est-ce qu'elle vit ?
J'habite dans un lieu non, c'est très loin, c'est dans le Bugey.
Très bien, ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Viré-le-Grand. Viré-le-Grand.
Il y a combien d'habitants ?
Je sais pas du tout, mais très peu. Ok, parité en politique. Là où j'habite, je pense qu'il y a assez peu de femmes quand même. Enfin, physiquement, elles sont pas là.
Nous parlons de son expérience de citoyenne à la campagne.
Moi, j'ai eu des incidents avec typiquement le maire de où habite ma mère. Et c'est vrai que c'est un peu une communauté où lui, par exemple, ça fait, je pense, une vingtaine d'années ou je sais pas combien d'années qu'il est maire. Et il y a un peu son petit groupe avec son petit comité. Ouais, il y a un peu des abus de pouvoir, entre guillemets, avec des mini-corruptions sur des passe-droits, sur des trucs un peu débiles. Et
Mais il y a un petit côté boys club, alors ?
Ouais, boys club de y a trois siècles, quoi. Vraiment un vieux truc de... Enfin, t'es qui, toi ? Pourquoi tu me parles ? Moi, je suis le maire de ce village.
Ouais, la frontière entre maire et shérif semble parfois encore fine dans les toutes petites municipalités. Je vous présente Hélène, qui vit à Montpellier. Nous discutons de la...
parité en politique, oui. Comment dire, la parité dans l'absolu, ce serait fabuleux si ça existait. Après, il ne faut pas obliger non plus les femmes ou les hommes à se présenter, à endosser les responsabilités qu'ils ne souhaitent pas. Donc effectivement, c'est souhaitable. Dans les conseils municipaux, il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, en tout cas à Montpellier. Comment motiver les femmes ? Peut-être demander aux hommes de laisser un peu plus de place aux femmes avant de motiver les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes motivées. Je pense que des hommes qui sont prêts à laisser leur siège et leur place, il y en a peut-être un peu moins.
Ah, ils sont peut-être moins nombreux. Ma dernière rencontre, c'est Laurent. Il vote à Reims. Il connaît bien la Champagne. Quel regard il porte sur la parité dans les petites communes ?
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent bien se présenter ?
Le problème, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent se présenter ?
Parce qu'elles n'osent pas. Elles s'en sont capables. Après, on va peut-être penser que c'est les hommes qui les empêchent de se présenter. Il y a un peu pour certains vieux hommes, peut-être, mais la nouvelle génération, elle accepte plus facilement les femmes.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, les femmes doivent se mettre en avant.
Voilà, montrez-vous, montrez-vous.
Il faut oser maintenant.
On est là,
vous
on est là.
Il faut oser.
Et en plus, on vous donne la permission, visiblement.
C'est vrai.
Dans certains villages, la parité s'arrête encore à la porte de la mairie. Et je repense à la vision de Carole tout à l'heure. Les femmes vivent là, travaillent là, élèvent là, mais ne décident pas. Alors peut-être qu'il est temps de remplacer un mot à la devise sur le fronton de la mairie. Liberté, égalité, parité.
Oui, vous en avez des idées pour la France, Quentin.
C'est pas recyclé, cette petite conclusion?
On n'a jamais parlé de la parité.
Vous voyez comment elle est?
C'est fou.
Vous voulez que je lui enlève un point supplémentaire au quiz? Je enlève un point supplémentaire.
Vous savez quoi? J'ai une excellente mémoire, c'est juste ça. Voilà, ça vous décide.
Parce qu'on a pas fait d'émission sur la parité.
Ou alors vous êtes de mauvaise foi. C'est possible.
Il y a un peu des
possibles.
Deux.
Ouais. Les deux sont possibles. Sandrine Lévesque, je reviens sur ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir, notamment Carole. Ben ça, c'est intéressant, cette notion. Elle dit, Carole, que les objectifs des femmes, finalement, sont différents. Et c'est pour ça qu'elle devrait avoir une place en politique. C'est un peu à double tranchant, ce discours-là.
C'est effectivement à double tranchant, parce que c'est l'idée de dire que si les femmes... S'il y avait plus de femmes... Ça a été aussi un argument, hein, c'est-à-dire de se dire, s'il y a plus de femmes dans les assemblées, quelles qu'elles soient, hein, eh bien, on va faire des politiques qui sont des politiques plus féministes. Mmh. Bon, ça, c'est quand même discutable, parce qu'on voit que les grandes avancées pour le droit des femmes, elles sont arrivées aussi à un moment donné où il n'y avait pas de femmes en politique. Qu'on pense au droit à l'avortement, au droit à la contraception, il n'y avait pas de femmes à l'Assemblée. Enfin, il y avait très très peu de femmes. On était
Là, on va dire qu'on parle aussi de droits fondamentaux, mais par exemple, aujourd'hui, quand on voit les associations féministes, notamment en province, etc., qui n'ont plus d'argent, potentiellement, on peut se dire, si les maires étaient plus femmes, ça pourrait changer quelque chose.
Oui, je pense que... Il y a eu aussi cette chose-là, c'est-à-dire que dans les municipalités, à un moment donné, il y a eu des enjeux qui ont été portés par des femmes, qui étaient des enjeux féministes. Les bureaux des temps, par exemple. Comment faire une ville du kilomètre ou une ville du quart d'heure. Vous voyez, ça a été des choses qui ont été portées par des femmes, effectivement. Après, je ne suis pas sûre que sur la question des subventions, on arrive à favoriser proprement les femmes, enfin que les femmes favorisent les femmes. Parfois, c'est peut-être plus compliqué que ça, malheureusement. Et puis, c'est vrai que parfois, certaines femmes ne se laissent pas enfermer dans leur rôle de femme, comme certaines personnes issues de l'immigration ne vont pas être des représentants.
Il ne faut pas être des caricatures.
Voilà, Elles veulent aussi avoir des dossiers qui sont des dossiers généralistes. Voilà.
Jean-Baptiste, qu'on a entendu au tout début, fait partie d'un conseil municipal paritaire d'une petite ville de 8000 habitants. Ils sont 29. Il dit que le maire, lui, est considéré comme non-genré. Ça compte pas, c'est la personne maire. 14 hommes, 14 femmes. Mm-hmm. C'est pas paritaire, du coup.
C'est pas tout à fait paritaire, mais on s'en approche.
Ah, mais cet exemple-là, il dit aussi quelque chose.
Oui. Et puis, quand on a des listes Chabada, là, évidemment, hein, si on a des listes Chabada comme aux européennes, eh ben, s'il y a la tête de liste est un homme, évidemment, à un moment donné, il va y avoir un décalage. Bon. J'allais dire, on part de loin, hein, donc franchement, si
ne soyons pas trop tatillons.
Ouais, on va pas être trop regardant là-dessus, quoi. Hein, ça serait bien déjà que, il y ait à peu près autant d'hommes que de femmes, et puis surtout qu'il n'y ait pas cette division genrée du travail qui va exclure aussi les femmes d'une certaine manière. Ce qu'on voit sur les départements, par exemple, ça c'est des tickets paritaires, donc là on a autant d'hommes que de femmes, et en même temps, on voit que dans le vécu du mandat, c'est pas du tout la même chose.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Moi, je n'ai rien contre le fait que des femmes écoutent le Zoom Zoom Test. Seulement, voilà, c'est l'heure du goûter. Alors, si les femmes se détendent en écoutant le quiz, comme dirait Laurent Fabius, mais qui va s'occuper des enfants? Justement, ce quiz sera consacré aux pires citations.
Je participe pas, voilà.
Aux pires citations concernant les femmes en politique. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui commence très fort avec pourtant un des grands artisans de la parité en politique, celui qu'on n'oubliera jamais ici, puisque sa photo trône au-dessus du bureau de notre rédacteur en chef,
Jacques Chirac.
Tout ça sur du Julio Iglesias.
Vous le savez, quoique marié à Bernadette Chirac depuis 1956, le président Chirac n'était pas spécialement porté sur la fidélité, dont il avait une vision, on va dire, très souple. Il était aussi connu pour son côté grivois, volontiers potache, comme nous le confirme cette anecdote relatée par Xavier Panon, le biographe spécialisé dans la Chiraquie, dans son livre « Chirac, quelle histoire ?» aux éditions de l'Archipel. D'après vous, à qui Jacques Chirac a-t-il un jour déclaré oh, « ça va, t'es pas jaloux Patrick ?» À Patrick Bruel, alors qu'il venait de pincer les fesses d'Amanda Sterz? À Patrick Ollier, le mari de Michel Alumari, qu'il venait d'embrasser sur la bouche? Ou à Patrick Balkany, après un sac à sel avec Isabelle?
Ah, Bruel.
Non. B, peut-être.
Michel Alumari.
Galocher Michel Alumari, l'ex de Cyril. Ça va très
Cyril
loin.
Cyril et Furax en
vous
régime.
Portez de graves accusations, j'espère que vous avez vraiment...
Vous l'avez
lu dans le livre.
Il n'y avait pas la langue.
C'est une bonne réponse, Quentin, bravo.
Ah,
oui.
Il n'y avait pas la langue.
Et oui, réponse. Mais alors, évidemment, Manon, oui, j'imagine que l'anecdote vous étonne.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Restez poli néanmoins. Nous sommes au début des années 2000.
J'ai changé de voix.
Oui, vous avez dit donc, vous avez perdu votre voix.
J'ai mué.
Nous sommes au début.
Soirée à toi.
Nous sommes au début des années 2000. Très très longtemps donc avant MeToo. À l'époque, le sujet n'est pas tant. Tiens, mais Michel Alumari était-elle consentante à ce baiser? Mais simplement, tiens, mais pourquoi Chirac a-t-il fait cette bonne blague entre guillemets? Réponse donc dans le livre de chevet de Cyril Chirac. Quelle histoire. Taquin. Le président Chirac voulait tout simplement énerver Patrick Ollier, le mari de Michel Alumari, qu'il trouvait, je cite, un peu trop macho. Alors que c'est vrai, Chirac, lui, n'était pas macho pour un sou.
Mais il est toujours maire.
Preuve. Ça,
Si, il a ruiné la maison.
C'est vrai.
Ouais.
Vous suivez la politique locale de très près, Quentin.
Bah,
on me signale en régie qu'on s'en fout, Quentin. Vous espérez glaner un point supplémentaire? Il n'y en aura pas.
Vérifiez, parce que si c'est le cas, j'ai un point.
Chirac, lui, n'était pas du tout macho avec cette autre citation qu'on lui doit. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine et qui... Qui tricote en silence pendant que les hommes parlent politique?
Non.
Qui fait la cuisine pendant que les hommes jouent aux cartes? Ou qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas?
C'est...
La pire, de... ah, c'est la pire ça, des oui. trois, presque.
Bah, je veux dire B, moi, je veux dire B, mais je pense que c'est...
Le président Chirac dirait
oui, oui.
pareil. Réponse C, bravo Manon, bienvenue. Non pas en 1897, mais en 1997. Encore une confidence cocasse du président Chirac, pour qui la femme idéale était donc une sorte de double inversée de Sandrine Rousseau. Alors, nous étions au paléolithique de la parité en politique. Et ça n'a pas empêché Jacques Chirac d'être ce qu'il avait annoncé qu'il serait, à savoir...
Je serai le président de tous les Français. Les Français.
J'avais juste envie d'écouter ce merveilleux morceau. Mais attention!
Moi, c'est mon réveil, donc.
Nouvelle citation sur les femmes en politique. Qui a dit: on pourra considérer les hommes et les femmes égaux en politique le jour où il y aura des femmes ministres incompétentes? Est-ce Ségolène Royal, qui ne croyait pas si bien dire? Françoise Giroud, qui ne verra pas son rêve exaucé puisqu'elle sera déjà morte quand Marlène Schiappa sera nommée ministre? Ou Jacques Chirac, parce qu'il ne peut pas y avoir de questions dans ce quiz sans Jacques Chirac?
J'ai dit avant.
B, alors. Je vais dire autre chose.
C'est une bonne réponse, Quentin. Bravo. Bref, on a cette phrase célèbre, on la doit à Madame Françoise Giroud, cofondatrice de l'Express et qui fut également secrétaire d'État à la Condition Féminine. Entre Schiappa, Montchalin et Ramayade, on peut dire qu'elle avait vu juste la vieille vient de lâcher Cyril en régie toujours chic. Mais poursuivons. Sur le sentier glissant de la misogynie en politique, d'après vous, Manon Quentin, qui a eu ces mots? À vrai dire, aucune femme moche ne peut réussir en politique. Pour réussir en politique, que l'on soit un homme ou une femme, il faut avoir une capacité à convaincre. Convaincre, c'est séduire, donc il vaut mieux être bien, physiquement. Ah. Est-ce l'inénarrable Patrick Balkany? L'impayable Edith Cresson? Ou le désopilant Gérard Larcher?
Oh, c'est dur.
C'est Larcher, non. Allez.
B, Cresson? C'est Cresson qui a dit ça?
Vous imaginez Gérard Larcher demander à quelqu'un d'être impeccable physiquement pour réussir en politique? C'est une bonne réponse de Quentin, Manon. Mais oui, Quentin.
Je voyais pas Edith Cresson dire ça non plus.
Edith Cresson, autre époque, autre mœurs, dirons-nous, pour l'excuser. D'autant que, rassurez-vous, Manon, côté sexisme, les hommes gardent toujours une longueur d'avance, même ceux qui se considèrent comme des progressistes. Ainsi, d'après vous, qui a déclaré un jour « J'ai tenté de promouvoir des femmes au maximum au sein de mon cabinet, bien que nos dossiers soient très techniques » Est-ce que c'est Léon Blum en 1936? Stéphane Le Foll en 2015? Ou François Bayrou en 2027? En 2022, plutôt en 2017.
C'est allez Bayrou.
Eh ben oui. B, ouais, Bayrou. Moi je dis B.
C'est fou, vous prenez toujours le contre-pied de Manon. Ouais. Et ça vous réussit, c'est une bonne réponse Quentin. Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avait eu cette petite phrase. Oui, il avait eu le courage de nommer des femmes dans son cabinet alors que les dossiers étaient pourtant très techniques, Manon. Attention à ne pas l'accabler, c'était encore un propos sorti de son contexte pour le jeter en pâture aux féminazis, alors qu'il avait immédiatement enchaîné avec cette phrase. S'agissant du sexisme, il faut être continuellement vigilant. Dans la même interview. Victoire de Quentin. Bravo Quentin.
Et merci. Vous dites ça comme ça?
Ouais, victoire d'un homme, comme d'habitude.
Pourquoi les hommes peuvent...
Merci à tous.
Alors, certainement pas comme d'habitude, Manon, puisque si
je
on rappelle le nombre de victoires...
Merci, oui. Merci
à tous. La parité en politique, les amis, on n'y est pas encore, malgré les lois successives. La professeure à Sciences Po Lille, Sandrine Lévesque, est avec nous pour comprendre ce qui se jouera aux prochaines élections municipales et l'élargissement de ce devoir de parité aux communes de moins de 1000 habitants. Sandrine, est-ce qu'on peut dire que depuis la première loi en 2000, la parité a permis l'émergence de carrières politiques de femmes qui n'auraient pas pu accéder à certaines fonctions sans ça? Ou même, peut-être, ça a créé des vocations?
Alors, est-ce que ça a créé des vocations? Je pense que d'une certaine manière, ça a créé des vocations, ça a permis à un certain nombre de femmes d'entrer en politique, peut-être d'y prendre goût, et évidemment de, bah voilà, de continuer une carrière. Même si, d'un point de vue global, j'allais dire, on constate que la professionnalisation politique, parce que quand même, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, hein, avec le cumul des mandats dans le temps en particulier, c'est une profession comme une autre, d'une certaine manière.
Et ça, c'est plutôt les hommes qui restent des professionnels de la politique.
Et voilà, parce qu'il y a toujours cette division du travail qui fait que les hommes s'investissent sur des dossiers techniques, donc sont considérés comme, en quelque sorte, irremplaçables, alors que les femmes, elles vont s'investir sur des dossiers qui sont des dossiers moins techniques, c'est-à-dire la petite enfance, etc.
Oui, des dossiers, ça peut être des dossiers du care, comme on dit souvent. C'est ça aussi. Vous parlez du plafond de verre, mais aussi la paroi de verre. C'est exactement ça, fait. C'est des secteurs qui restent cloisonnés hommes-femmes, en fait.
Ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État, par exemple le sociologue Pierre Bourdieu, c'est-à-dire des choses qui ne relèvent pas du régime régalien de l'État, c'est-à-dire le soin, l'éducation, la petite enfance, enfin sur le niveau local.
Mais est-ce qu'on sait, dans les pays par exemple, il y a déjà eu des femmes présidentes, ou même dans les villes, on en a cité quelques-unes, il y a des maires femmes, si les mentalités changent réellement ou pas ?
Moi, je pense que les mentalités... Je suis pas sûre que les Français seraient contre le vote... Enfin, quand on regarde les sondages, hein, par exemple, ils ne sont pas du tout hostiles à l'idée d'élire une femme. Ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a une forme de sexisme ambiant qui perdure. C'est-à-dire, toutes les femmes en politique ont subi, à un moment donné de leur vie, ce sexisme en politique que vous évoquiez tout à l'heure, y compris même des violences en politique de la part des adversaires, de la part aussi...
Critiquer Anne Hidalgo, par exemple, ça s'est totalement normalisé à
Paris. Ça s'est totalement normalisé. Et j'allais dire même, ce qui est intéressant, parce que moi j'avais travaillé un tout petit peu là-dessus, c'était de montrer aussi que pour disqualifier des hommes politiques, on va les féminiser. Par exemple, le François Hollande bashing, c'était typiquement ça. C'est-à-dire, on disait, il est mou, il se teint les cheveux, il fait des régimes, il sait pas tenir sa femme, etc. Donc ça, tout ça, c'était aussi des choses où finalement, on va avoir une forme de disqualification par la féminisation d'un certain nombre d'hommes politiques. Donc on voit bien que quand même, j'allais dire ce qu'on pourrait appeler le genre, hein, comme rapport de domination, eh bien, ça continue à fonctionner, et le masculin en politique est toujours supérieur au féminin, d'une certaine manière.
Même s'il y a eu quand même un renouvellement de la classe politique, et j'ai envie de dire même un nouveau ton qui est venu avec, je pense à Mathilde Panot, on peut penser à Marine Tondelier, ou même à droite, on peut penser à une Pécresse, ou Le Pen, à l'Assemblée nationale, avec un changement de ton. Ça a dû amener autre chose aussi, cette parité.
Alors, je pense que ça a amené un changement de ton, ça a amené une espèce de prohibition des mauvais discours, c'est-à-dire quand même, aujourd'hui, on a quand même du mal à tenir des discours...
Ce qu'on a entendu là, sur le quiz.
C'est fini.
C'est fini.
Ça, c'était vraiment l'ancien.
Et même si on le tient, parce qu'il y a encore eu un député ciotiste là qui a dit que la voix de Sandrine Rousseau, c'était pas possible.
Oui,
c'est pas vrai. Donc ça, on a quand même... Et ça, tout de suite, c'est condamné par la vie... D'un autre côté, on va quand même avoir des trajectoires politiques de femmes qui ressemblent à des trajectoires politiques d'hommes. C'est-à-dire, quand on regarde Ségolène Royal, par exemple, qui est la seule femme, avant Marine Le Pen, à accéder au second tour d'une élection présidentielle, elle ressemble finalement à François Hollande, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est énarque, qui est issu d'une bourgeoisie moyenne. Donc, en fait, on a quand même aussi des femmes qui ressemblent à des hommes politiques du point de vue des données qui sont des données plutôt sociobiographiques, en termes de carrière. Mais voilà, Marine Tondelier, elle vient de Sciences Po Lille, donc mais c'est quelqu'un, c'est des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont pu faire l'ENA, etc., qui sont quand même dotés socialement, dotés en termes de compétences, et ça, c'est peut-être ce qui manque un peu aussi à la diversification du personnel politique.
Vous dites que depuis 26 ans, la parité est devenue une sorte de cause sans adversaire. Ça veut dire quoi ?
Alors moi, je dis ça parce que c'est vrai que quand on regarde, en fait, depuis 2000, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui ont été adoptées depuis 2000. Et à chaque fois, c'est des lois qui renforçaient la parité, en fait, qui vont renforcer. Et à chaque fois, il y avait très peu d'adversaires. La loi de 2014, par exemple, sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, je veux dire, à part Christine Boutin, que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que... Et Poisson, là, je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin, je veux dire, c'est une loi qui a été vraiment très admise. Et puis, même aujourd'hui, Ceux qui perdent jusqu'à 1,3 million en termes d'amende, enfin de déficit, par exemple, ils vont dire « Ah oui, non mais quand même, vraiment, si on avait fait un effort, on aurait pu réussir à ne pas... » Voilà. Mais c'est quasiment admis qu'aujourd'hui, eh bien, il faut la parité. Il faut la parité en politique, mais il faut aussi la parité dans les fédérations sportives, il faut la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises.
Dans les émissions de radio aussi.
Dans les émissions de radio aussi.
Comment ça, alors attention, hein. Attends, Marine est déjà entrée en studio et là.
On est en supériorité numérique.
Oui,
pour une fois.
Mesdames.
Eh oui. Je dirais que ça a été fait exprès.
Oui, c'est peut-être fait exprès. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une ancienne première ministre, et pas n'importe laquelle, son nom, Jacinda Ardern, chef du parti travailliste néo-zélandais. En octobre 2017, à peine âgée de 37 ans, elle devient la plus jeune chef du gouvernement dans le monde. Son parti arrive deuxième aux législatives avec environ 36% des voix, mais elle parvient à former une coalition. À la tête de la Nouvelle-Zélande, elle promet une politique fondée sur l'empathie, la lutte des inégalités et le bien-être. Très vite, elle impose un style assez différent. En 2019, après l'attentat d'extrême droite dans deux mosquées de Christchurch qui a fait 51 morts, Jacinda Ardern apparaît voilée, serre les familles dans ses bras et prononce cette phrase qui a fait le tour du monde « Ils sont néo-zélandais, ils sont nous ». Quelques semaines plus tard, son gouvernement interdit la majorité des armes semi-automatiques. En 2020, elle entre aussi dans l'histoire, le Parti travailliste remporte environ 50% des suffrages et décroche la majorité absolue au Parlement du jamais vu en Nouvelle-Zélande. Et c'est cette année-là, en pleine crise du Covid-19, qu'elle décide de fermer les frontières de son pays en adoptant une stratégie d'éradication du virus. Pendant de très longs mois, le pays figure parmi ceux qui comptent le moins de morts liées au virus dans le monde. Sur le plan social, Jacinda Ardern augmente à plusieurs reprises le salaire minimum et lance un budget du bien-être. Un budget qui ne mesure pas seulement la croissance, mais aussi la santé mentale, la pauvreté et la qualité de vie. Et puis, une image marquante suit aussi Jacinda Ardern, une image moderne, progressiste, féministe. En 2018, elle devient la deuxième chef de gouvernement au monde à accoucher en exercice, et elle décide d'emmener son petit bébé à l'ONU. Son mari était avec elle et s'en est occupé pendant que sa femme prononçait son discours en l'honneur de Nelson Mandela, une image symbole d'une autre façon aussi d'exercer le pouvoir. Et puis en janvier 2023, c'est la surprise, la stupeur même, elle annonce sa démission, pas de scandale, pas de défaite, elle dit simplement qu'elle n'a plus l'énergie nécessaire pour continuer. Aujourd'hui, Jacinda Ardern donne des conférences, intervient dans des universités, travaille avec des organisations internationales. En Nouvelle-Zélande, beaucoup la décrivent encore comme une dirigeante proche, accessible, sincère. Dans le monde, elle reste une figure du leadership compatissant. Une femme politique qui aura prouvé qu'on peut diriger un pays sans hurler, sans mépriser et rappeler que parfois la force ressemble aussi à de la douceur. Certains devraient s'en inspirer, certains hommes, évidemment.
Merci beaucoup Manon, et c'est bon de vous retrouver avec votre vraie voix et pas celle de Dimitri tout à l'heure. Qui était vraiment bizarre.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
On dit de certaines personnes qu'elles ont l'alcool mauvais. Inutile de braquer vos regards sur Manon, puisque c'est de Pierre Courade que je parle.
Pour
Pierre,
une fois.
Pierre qui, jeudi dernier, lors de notre fameux machon, a failli en venir aux mains, avec une vigneronne du Sud-Ouest qui avait eu le malheur de lui dire que Lourdes était, je cite, un trou. Ouais. Une photo prise sur le vif permet de voir dans quel état cette déclaration a mis notre Courade, qui n'était pas tout rouge uniquement à cause du vin. Et Gaillac, c'est pas un trou peut-être, a-t-il balancé la figure de la vigneronne qui ne s'attendait pas à la voir autant blessée. Sa réponse a été l'estocade pour Pierre. Non, à Gaillac, on a un aérodrome. C'était la première fois en 39 ans que Pierre Courade croisait le chemin d'une personne encore plus de mauvaise foi que lui. Outré, il préféra se lever et quitter le Berrio en déclarant que décidément, une femme n'était pas faite pour faire du vin. Pierre, le week-end est passé, vous avez eu le temps de vous calmer. Résumez-nous donc tout ce qu'on s'est dit sur la parité en politique en une minute chrono.
Comme quoi la parité, c'est quand une femme est d'aussi mauvaise foi qu'un homme. C'est aussi ce qu'on pourrait dire en politique, surtout depuis qu'une loi de juin 2000 a introduit cette notion pour les élections législatives. 26 ans plus tard, c'est au tour des communes de moins de 1000 habitants de faire un pas vers plus de représentativité. Cette année, toutes les listes candidates aux élections municipales vont devoir présenter autant d'hommes que de femmes. C'est de cette petite révolution qu'est venue nous parler notre invitée, la professeure de sciences politiques Sandrine Lévesque. Pour elle, la loi sur la parité a surtout permis de faire entrer beaucoup plus de femmes en politique et de se professionnaliser. Elle a eu aussi un effet dans d'autres domaines, les entreprises, les fédérations sportives. MeToo n'aurait probablement pas eu un tel retentissement sans cette loi. Sandrine Lévesque, estime finalement que si la parité n'avait pas été imposée, aucun parti n'aurait totalement joué le jeu. D'autant qu'encore aujourd'hui, certaines formations préfèrent payer un malus plutôt que présenter autant de femmes que d'hommes. Néanmoins, la parité a obligé un certain renouvellement de la classe politique et grâce à cette dernière règle en date, il y aura désormais près de 50% de femmes conseillères municipales à l'issue des élections de mars. Et ça, ce sera une première.
Merci Pierre. Sandrine, est-ce que Pierre a dit beaucoup de bêtises ou il a bien résumé la chose?
C'est parfait.
Il a bien résumé notre
Merci Sandrine.
Émission.
Merci.
Merci Sandrine, comme un petit élève, un premier de la classe. Bravo mon Pierrot. Marine Léonardi, vous, alors j'ai pas compris, vous êtes contre la parité électorale?
Oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux. Voilà, c'est tout. Enfin, plus de femmes ancrées dans le quotidien.
Ah oui.
Parce que quand Sarah Knafo balance que le pass Navigo coûte 52 euros par an, bon, t'es là, t'es pas la cause en fait, ma belle. Hein. Ça commence à se voir que tu te balades en G7. Bon, t'inquiète, ma puce, on a transmis ton CV à la DRH de France Inter. Elle aussi, elle a un petit souci avec les chiffres.
Oh.
Vous serez payé 50 euros. Oh, par jour, non par mois. Ah, bah après, faut pas s'étonner que Cyril ait toujours la même chemise et le même pull. Hein. Oui, mais les chroniques, ça vous fait de la visibilité. Oui, enfin, de la visibilité quand t'es forcé de t'habiller chez Célio, c'est cruel. Hein. Allez, je ne critiquerai pas davantage notre belle maison. Je prépare ma négo pour l'année prochaine.
Oui.
Je pense sincèrement que les...
Passe par nous d'abord. Quoi.
Oui. Je pense sincèrement que les femmes sont plus compétentes que les hommes. Oh, c'est du sexisme inversé, non? Nous, les hommes, on n'a plus le droit de dire ça. Eh ben non, Gérard, vous n'avez plus le droit de dire ça parce que beaucoup d'hommes, dont vous ne faites peut-être pas partie, ont déconné. Hein, nous, les femmes, on n'a pas de Georgette Epstein avec des hommes esclaves sexuels. Enfin, même si, comme dit mon mari, se faire pipon par Léonardi, c'est déjà un peu de la torture.
Oh.
On n'a pas de Madame Pellicot qui aura endormi des hommes avec des médicaments. Ah, déjà, parce que pour vous endormir, il suffit de vous raconter notre journée. Ah ben, me concernant parler ou jouir, il faut choisir. Je plaisante, je ne jouis pas. Oh, mais elle sait parler d'autre chose que le sexe, mais c'est vulgaire.
Ah bon?
Non, Brigitte, ce n'est pas vulgaire. Le sexe est politique dans la bouche d'une femme et souvent un peu mou aussi.
Non.
Je ne dirai pas ce que donne le sexe dans la bouche d'un homme car je ne voudrais pas exciter certains d'entre nous. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que la parité soit promue dans les élections à un tour et soit maintenant étendue aux communes de moins de 1000 habitants. Après, moi, j'ai grandi dans une commune de moins de 1000 habitants et la priorité, c'est pas la parité, c'est le permis de conduire. Ah bah, la Fiat Panda, ça reste la seule solution de se faire désinguer sur le parking du Cora. Encore ? Mais c'est pas possible ! Je plaisante, Brigitte, je n'ai pas eu cette chance. Quand j'étais ado, mon père tenait à me déposer et à venir me chercher. Il avait pas compris que sa fille était moche.
Oh,
ah, papa, je t'aime, merci d'avoir cru en moi. Il n'y a que 23% c'est la blague qui te fait
plus. C'est dire à quel point il est ignoble.
À quel point il me trouve moche.
C'est fou.
Il n'y a que 23% des communes où la parité est respectée et moins de 20% des maires sont des femmes. Après, il y a des petites communes où ils galèrent à trouver des nanas volontaires. Dans la doc, c'était écrit que Domartin Lecoq dans l'Aube, vous lisez pas la doc, donc je vous le dis, ils ont rajouté en last minute des épouses et des filles pour compléter la liste. Alors moi, vraiment, si mon mari me fait le coup de me rajouter sur sa liste, je serais la putain, mais il peut vraiment rien faire tout seul. Ça, non, mais j'imagine quand même la brave mère de famille, Christine. Christine, tu prends les finances ou la culture? Ah non, pardon Christine, on est d'extrême droite, il n'y a pas de culture. Ça dénonce. Mais il faut donc se poser la question de pourquoi les femmes ne se projettent pas aussi dans ce type de poste. Eh bien, par manque de représentativité. Serpent qui se mord la queue, tout ça, tout ça. Oh, elle a dit se mord la queue! Encore une allusion graveleuse! Un peu comme dans le stand-up, hein, quand on vous dit « Mais on a cherché à programmer des filles, mais il y en a moins. » Peut-être, peut-être qu'il y en a moins. Mais en visant la parité, vous montrez aux plus jeunes qu'elles peuvent le faire, qu'elles ne sont pas des exceptions, qu'elles ont le droit de rêver, comme moi quand je voyais Florence Foresti, Blanche Gardin, Nora Hamzaoui prendre un micro et que je me disais wow, « on peut être drôle et bien habillé. » Vous verrez, messieurs, ça vous arrivera un jour.
Merci beaucoup Marine Léonardi, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et puis bien sûr vous serez, je l'ai dit, à l'Adidas Arena le 5 mars 2027. Attention,
ouais,
2027.
On va le dire pendant 2 ans ou pas?
Oui,
tournée des Zéniths,
oui.
Cyril. Vous adorez la tournée
c'est
des Zéniths.
Ouais.
Hey. Oh, tu remplis pas? Tu bides?
Si, ça remplit, c'est le seul truc que je remplis
c'est
en ce moment.
C'est complet pour 2026. Billetterie sur marineleonardi.com. Ils veulent pas laisser votre promo, ils veulent pas entendre.
Mais là, il n'y a pas besoin.
Bon, on l'entend tous les lundis.
Merci beaucoup. Moi, je remercie notre invitée Sandrine Lévesque de nous avoir éclairé sur la parité électorale. Je rappelle un de vos livres, Femmes en politique, coécrit avec Catherine Achin aux éditions La Découverte. Et puis, évidemment, on se voit à la prochaine AG, puisqu'on a beaucoup de choses à voir, notamment cet ascenseur qui déconne dans le bâtiment B.
C'est vrai qu'il fait du bruit, votre ascenseur.
Il s'est arrêté là. Oui, il marche.
Zoom Zoom Zen.